Devant la façade de l'atelier, Ludovic prit la réelle mesure des enjeux. Au-dessus du porche, il y avait une enseigne en lettres de néon nacrées, « Aurore de Sage ». Ce qui ne manquait pas d'impressionner. Aurore lui dit de se garer sur la place Livraison, derrière la Smart noire, celle de Fabian. Ils restèrent dans la Twingo, moteur éteint, sachant qu'en sortir signifierait le début des hostilités. Elle lui prit la main. Il se sentait dans le même état qu'au seuil d'un rendez-vous, se préparant à affronter toutes les situations possibles, ne sachant jamais comment ça allait tourner. À chaque fois, il marquait un temps, il évaluait, devinait dans quelle disposition se mettre, un peu comme on hésite devant un climatiseur entre chaud et froid, on ou off. Cet état d'esprit d'avant un rendez-vous, il le connaissait par cœur à force, sinon que, aujourd'hui, il faisait un effort pour se sentir légitime. Plus que jamais, il savait qu'il avançait sur un champ de mine. Une Smart noire. Ça ne l'étonnait pas que ce type roule dans une Smart noire, légèrement abîmée, avec des tas de petites rayures et d'éclats un peu partout sur la carrosserie, marque d'un automobiliste indélicat qui se garait sans doute un peu n'importe comment, un type pas trop scrupuleux qui ne faisait pas beaucoup attention. « Sinon, en dehors de tout ça, il est clean ?» demanda-t-il soudain. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Il n'a pas, je sais pas, des lubies, les cartes, l'alcool, la drogue ?»« Après tout, il s'amuse à nous coincer. En retour, on a peut-être de quoi le coincer, lui aussi. »« Non, Ludovic, il faut qu'on arrête de faire monter la tension. Je ne veux pas qu'on rentre dans ce jeu-là. » « Mais dans le jeu, on y est, Aurore. On y est déjà dans le jeu, et en plein dedans même. Si tu me donnes quoi que ce soit pour le choper, je te jure que je ne le raterai pas. »« Non, Ludovic, on va s'y prendre autrement. » Aurore ouvrit la portière et descendit de la voiture. Ludovic lui emboîta le pas. Devant l'immeuble, elle sortit un gros jeu de clés de son sac, avec la plus épaisse elle déverrouilla la porte, puis une fois dans le hall, elle fit un code, mais visiblement l'alarme était déjà neutralisée. Ludovic la suivait sans un mot. Ils traversèrent tout le rez-de-chaussée, jusque dans le showroom sur la droite. La salle était vaste, avec des portants et des miroirs. Une demi-douzaine de fauteuils anciens étaient recouverts de cuir blanc, impeccable. Aurore d'un coup s'activa, elle devint tout autre. Il la vit se métamorphoser devant lui. Elle quitta les grosses bottes, le vieux pull atroce et la chemise. Une fois déshabillée, elle attrapa plusieurs robes, en passa une noire, puis opta pour une autre, noire elle aussi, mais plus courte. Avec son blouson et son pull-over toujours à moitié mouillé, Ludovic n'osait pas s'asseoir dans cette pièce où tout était salissant. Les peintures étaient blanches, des moulures beiges couraient au plafond. Il inspecta les lieux comme s'il s'agissait de les évaluer. Ce salon faisait plus de 100 mètres carrés. De là, on apercevait le grand escalier qui montait dans les étages, constitué d'une ferronnerie design en acier et cuivre. Ludovic fit le tour de la pièce en osant tâter l'étoffe des modèles rangés le long du mur sur des cintres dorés. Au milieu d'un agencement de miroirs, Aurore vérifia comment cette robe tombait sur elle, puis elle choisit une paire de chaussures dans un dressing dissimulé derrière les glaces. Avec tous ces miroirs qui se répondaient, ses quelques fauteuils cossus et ses cuivres lustrés, tout ici inspirait la perfection, les jeux de reflets amplifiaient la pièce. Où qu'on regarde, le salon se répercutait sans fin. Ludovic concevait l'orgueil intime pour elle de se savoir maîtresse de ce petit univers-là, l'insupportable perspective de devoir tout abandonner. D'une certaine façon, il n'en revenait pas. Sans rien montrer de son étonnement, il n'en revenait pas. À la voir ainsi, au cœur de son royaume, elle était encore plus impressionnante. Cette femme avait donc bien réussi à construire une boîte réellement imposante, un vrai petit empire. Il se sentait un nain à côté d'elle. Même là, sans bouger dans la fraîcheur de la pièce, il n'arrêtait pas de transpirer, sa fièvre était forte. Le sang lui battait dans les tempes, et sa vue se brouillait comme dans un kaléidoscope. Il osa enfin se poser dans un des fauteuils, mais même assis, la douleur ne passait pas, à croire que la glace du lac lui avait cisaillé une vertèbre. Tout mouvement était douloureux. Aurore vint se placer face à lui, assise sur ses talons. Plus que jamais, elle le fascinait. En considérant la fragilité de sa situation, la menace que tout ça lui soit enlevé, qu'elle se retrouve exclue de sa propre société, elle en devenait poignante et sacrée. « Tu sais, je crois que c'est mieux si je monte seule. »« Il est où ?»« Son bureau est au troisième. Tu m'attends là. »« Comme tu le sens. » J'ai peur que s'il te voit, il ne se croit obligé d'en faire des tonnes. Il va en faire des tonnes. Aurore posa sa tête sur les genoux de Ludovic, cet homme qui, une fois encore, était là, au plus près d'elle, qui ne la lâcherait pas. Elle soupira. Elle aurait préféré qu'il reste à ses côtés, qu'il monte avec elle. Elle se serait sentie plus forte s'il avait été près d'elle, comme pour le rendez-vous chez Cobzam. Quelle horreur. Pardon de te faire vivre ça. Aurore, je ne sais pas ce que tu veux négocier avec lui, mais s'il a en tête de me coller la mort de Cobzam sur le dos, je préfère qu'il me le dise en face. » Elle connaissait Fabian, cet orgueil qu'il aurait à ne pas se laisser impressionner. Elle avait trop peur de leur réaction, à l'un comme à l'autre. « Tu as ton portable sur toi ? » demanda-t-elle. « Oui. Appelle-moi. » Ludovic fronça les sourcils. « Tu sais bien que je n'ai pas ton numéro. » Aurore lui prit son téléphone des mains et composa son propre numéro, ce qui fit sonner le sien, qu'elle décrocha aussitôt. « Tu vois, c'est comme si tu étais là, près de moi. » Elle sortit de la pièce, le téléphone à la main, puis elle s'engagea dans l'escalier. L'oreille collée à son téléphone, Ludovic l'entendait monter les marches. Il eut cette image de la chasse, quand ils chassaient le long des reliefs du scellé. Ils se servaient tous de leur portable pour communiquer en mode talkie-walkie. Il l'entendit monter les trois étages, puis il y eut le bruit de ses talons sur le parquet, le long d'un couloir qui résonnait, et il perçut enfin la voix de ce salaud. Pour autant, il n'arrivait pas à l'imaginer, la voix était lointaine. Il y avait le parasitage des bruits de tissu, jusqu'à ce qu'Aurore pose son téléphone sur une table, qu'il soit stable et sans choc. Apparemment, elle l'avait rejoint dans son bureau, s'était assise en face de lui, ne disait rien, mais à son souffle, il sentit qu'elle était nerveuse. Fabian dit juste « T'es venu seul ?» Enfin, Ludovic tenait quelque chose de ce type, ne serait-ce que sa voix. « T'as pas amené ton nouvel ami ?» Enfin, il le tenait, cet enfoiré, ce salaud, à la merci duquel il était. Il était juste là, trois étages au-dessus de lui. « Fabian, tu manigances ça depuis quand ?»« De quoi tu parles ?»« Planter la boîte pour la reprendre avec eux, tu manigances ça depuis quand ?»« Non, Aurore, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. »« Alors vas-y, explique-moi. »« Écoute, je crois que toutes ces histoires t'échappent, et en même temps, c'est un peu normal. Il faut que ça t'échappe. Moi, depuis le début, je suis là pour que tu crées tranquillement. » Que tu fasses tes collections sans avoir à te soucier de rien, tu comprends? L'essentiel, c'est que tu fasses tes modèles sans que tu aies la moindre question à te poser. Fabian, ne me prends pas pour une conne, ça fait 6 mois que tu fais ça pour qu'on se plante. 6 mois que tu fous la boîte à genoux pour la ramasser à la petite cuillère. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu fais là, Fabian, c'est pas seulement dégueulasse, mais c'est un délit. Majoration de passif, manœuvre frauduleuse, abus de confiance, banqueroute, ça te parle? « Je vois que madame a vu ses avocats. Je peux te faire envoyer en prison pour ça. »« Non, Aurore, non, je ne crois pas. La mort de Jean-Louis change pas mal de choses. Je ne vais pas te faire un dessin. »« Si, si, justement, vas-y. Vas-y, fais-moi un dessin. »« J'aime mieux que ça. » Ludovic entendit Fabian se lever et prendre des papiers. « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Il y eut un silence. Ludovic songea à une rupture de communication, puis il entendit que Fabian tendait quelque chose à Aurore et qu'il lui lançait sur un ton d'insupportable ironie. « Des photos, c'est mieux qu'un dessin, non ? Attends, j'en ai d'autres !»« C'est quoi, ça ? Le boulevard Suchet ?» Aurore fit le choix de raccrocher, ou alors la communication s'interrompit d'elle-même. Ludovic ne pouvait pas le savoir, mais ça le rendit fou de ne plus rien entendre. Cela dit, il n'avait pas besoin d'en savoir plus. Il voulut se lever de ce fauteuil trop confortable, mais cette lame dans son dos le fouillait de plus en plus profond. Il eut du mal à se déplier, à se tenir droit. Où qu'il regarde, il se voyait répercuté par les miroirs, voûté, se tenant les reins. Son déséquilibre réfléchit à l'infini. Il ne savait plus quoi faire. La rejoindre serait à coup sûr une connerie, une de plus. Il en avait le souffle coupé. Il imaginait que là-haut des phrases allaient fuser, que le ton allait monter entre eux, qu'ils allaient s'engueuler et s'insulter. Mais non, pas un bruit. Même en retenant bien son souffle, il n'entendait rien. Si ça se trouve, elle attendait qu'il monte, qu'il lui fasse peur à celui-là aussi. Elle attendait qu'il débarque avec son calibre et qu'enfin il la débarrasse de cet encombrant. La voiture était là, devant la vitrine, la carabine dedans, elle savait qu'elle était dedans. Il refit le numéro pour qu'elle décroche dans le bureau, mais il tomba directement sur la messagerie. L'inconnu, c'était de savoir comment Aurore réagirait maintenant que l'autre enflure avait joué son joker. En ajoutant à cela les témoignages des assistantes de Cobzam et les coups de fil à Fabian, où il lui avait parlé des menaces et d'autres preuves encore sans doute, la vie de ce Cobzam devait être pourrie de caméras de surveillance. C'est clair que ce salaud le ferait accuser d'homicide. Il était maître du jeu. Si Aurore l'attaquait, cet enfoiré balancerait tout. Du coup, Ludovic se prendrait une mise en examen, Fabian tomberait pour banqueroute, seule Aurore s'en sortirait. Seule. C'est pour ça qu'elle ne répondait pas. Il y avait de quoi se taper la tête contre les murs. Seulement partout où il tournait le regard, il ne voyait que son image, il ne voyait que lui, le corps plié, les vêtements lourds. Il devenait lui-même son propre ennemi, celui qu'il se désignait. Tout était de sa faute, il ne pouvait pas en rester là. Il ne pouvait pas laisser les autres décider de son sort. Ce n'était pas possible de laisser les autres décider de son sort. Ce n'était pas possible de tomber à cause d'un minable de ce genre. La tête lui tournait. Il posa ses mains sur ses genoux pour récupérer son souffle. C'était plus fort que lui, mais il fallait qu'il monte, qu'il les voie en face. Il fallait qu'il lui claque la gueule à cet enfoiré. C'était sans doute la dernière des conneries à faire, mais il ne supportait pas l'idée que sa vie dépende de ce type. Il ferma les yeux. En inspirant des petits coups secs, il fit monter l'influx pour s'enrager au plus profond. Il se prépara à avaler les trois étages et à gicler dans le bureau de ce mec pour tout foutre à plat, quitte à les brusquer tous les deux. Il était chaud bouillant, décuplé par la fièvre et tout l'alcool qu'ils avaient bu ce midi. Il se redressa en inspirant fort, mais là, il se prit un coup de poignard dans le dos. Ça le taillada en dedans, le clouant net et le foutant à genoux. La douleur était telle qu'il s'écroula sur le carrelage froid, comme sur les éclats de glace d'un étang gelé qui s'ouvrirait sous lui, l'aspirant vers le fond. Le scorpion n'a aucune conscience, aucune forme d'intelligence ni de raisonnement. Cependant, si le scorpion ne pense pas, il sait se battre, il tue dès qu'on l'attaque. Ce sont les deux seules choses qui se passent dans sa tête, réagir et tuer. Il en va de même pour les grands animaux quand ils s'engagent dans la plaine où il n'y a plus ni arbres ni buissons. À partir de là, les prédateurs ne peuvent plus se camoufler et les proies s'offrent à eux. Parmi cette belle faune à découvert, les buffles en imposent, surtout quand ils progressent en troupeaux par centaines. Rien ne leur résiste. Et pourtant, s'ils sont bien les plus lourds et les plus forts de tous les animaux rapides, s'ils pèsent une tonne et courent à près de 60 km/h, il y a pour eux une règle à ne jamais oublier, ne pas s'isoler. Il est bien entendu que les lionnes ou les guépards n'ont aucune chance face à des centaines de buffles qui font corps et balancent des coups de corne. Par contre, dès qu'un buffle s'écarte du groupe pour aller boire et qu'il se retrouve seul, alors on peut dire de celui-là qu'il est condamné. Les lionnes ou les guépards se jetteront dessus. Le solitaire se fera tuer. Jamais il ne passait deux jours au lit devant sa télé. D'autant qu'en période de fête, il n'y avait rien que des documentaires animaliers et des vieux films, à longueur de journée, des dessins animés aussi, mais le plus souvent des documentaires animaliers, de belles images où des bêtes splendides chassent en longue cavalcade, des félins dont on épouse les mouvements au ralenti, des splendeurs qui n'ont qu'un seul projet en tête, distribuer la mort, sans état d'âme ni pudeur, et devant les caméras. Ludovic regardait ça sans changer de chaîne, sonné par les doses d'opioïdes qu'il prenait depuis deux jours, fasciné par ce buffle entaillé de toutes parts, ce solitaire qui pliait face à une meute de lionnes. On le sentait aux intonations de la voix du commentateur, ça allait mal finir. Avant-hier, c'est Aurore qui était allée lui acheter les médicaments. Elle lui avait préparé les doses à prendre parce que l'ordonnance était complexe. Le médecin lui avait prescrit du paracétamol codéiné associé à un antalgique opioïde et des patchs à mettre en interdose en cas de douleur entre les prises de comprimés. Et même avec les schémas que la pharmacienne avait dessinés sur les boîtes, pour lui ça demeurait ésotérique, d'autant que tous ces médicaments l'assommaient. Depuis 2 jours, il se sentait écrasé, à tout subir. Où qu'il se tourne, tout l'inquiétait, tout l'affolait. Sa vie, le devenir de la ferme, de sa mère, ce grand vide qu'était sa vie, ces douleurs qui le clouaient, cet homme qui était mort à cause de lui, et le désordre qu'il avait mis dans la vie de cette femme. Aurore était passée dans la matinée. Elle a dit qu'elle repasserait ce soir, ou plus tôt, il ne savait plus. Depuis 48 heures, il était suspendu à elle, à ses allées et venues. À cause de la souffrance et de la somnolence induites par les médicaments, il ne pouvait plus se lever. Il n'aurait jamais pu aller jusqu'à la pharmacie ni même remplir un verre d'eau au robinet. En ressentant cette décharge foudroyante avant-hier, il avait immédiatement pensé à une récidive de sa hernie discale. Mais le docteur lui avait diagnostiqué une pneumonie. Il n'y croyait pas. Il savait que cette douleur, c'était celle de la hernie qu'il avait foutue par terre quand il avait 25 ans, l'obligeant à arrêter le rugby et le collant 3 semaines au lit avec des infiltrations en série. Le médecin lui avait fait une ordonnance pour passer une radio, parce qu'il en était convaincu. Il y avait aussi des signes de pneumonie. Seulement, il était hors de question qu'il sorte pour ça. De toute façon, un 23 décembre, veille de réveillon, ce serait un enfer d'aller passer une radio. Et comment se lever? Comment aller à 3 stations de métro d'ici, faire la queue, reprendre rendez-vous, revoir un toubib? Ça le rendait fou d'être bouffé par ce genre de préoccupations. Il était abattu par la sensation de subir, de n'avoir plus aucune prise sur rien. Mais surtout d'avoir foutu un bordel monstre dans la vie de cette femme, au point qu'il n'osait plus la regarder en face. Au total, il n'avait rien arrangé. Au contraire, il avait tout envenimé. De toutes parts, il était piégé, comme ce vieux buffle-là, effondré devant lui, des mâchoires de lionceau lui fouillant les chairs. C'était sans solution. Tout ce qu'il pouvait faire pour le moment, c'était de tendre les bras pour attraper ses gélules. À partir de maintenant, il ne prendrait plus que les 2 antidouleurs qui ratissent large. Il ferait l'impasse sur les antibiotiques, même si Aurore lui avait dit de les prendre, il ne les avalerait pas. Par acquis de conscience, il jeta un œil aux notices de toutes ces saloperies qu'il s'enfilait depuis 2 jours. Il se sentait tellement cassé et nauséeux qu'il aurait bien aimé savoir ce qu'il s'envoyait dans le sang. Et là, sur ces petites feuilles salement pliées, il vit quantité de contre-indications écrites en tout petit, certaines en très gros, des mises en garde affolantes avec des triangles rouges qui parlaient de risques, de troubles, d'hallucinations, de dépendance et même de décès en cas de surdosage. En fait, c'était un véritable arsenal de substances mortelles qu'il avait sur sa table de nuit. Une batterie de poison. Ces gélules, il aurait suffi de les sortir toutes, de les diluer dans un grand verre d'eau, et c'en aurait été fini de tout. Quand Aurore revint dans l'après-midi, il lui demanda de fermer le rideau. Il ne voulait rien voir du dehors. Et surtout pas chez eux. Il voulait juste se terrer, disparaître devant cette télé allumée. Depuis la cuisine, elle lui proposa de faire un thé, il accepta. Depuis 2 jours, elle s'occupait de lui comme personne. Quand elle l'aida à se redresser dans le lit, il était encore plus étourdi que le matin. Le plus troublant, c'était de la voir aller et venir autour de lui. Cette sensation irréelle d'avoir quelqu'un vivant autour de lui, existant. Elle lui avait préparé 2 plateaux, un pour le goûter, un autre pour le soir, pour qu'il ait tout à portée de main. Mais c'est ce qu'elle avait fait avant-hier, dont il ne revenait toujours pas. Cette femme, il ne savait pas vraiment qui elle était. Pourtant, il était au moins sûr d'une chose à son propos, c'est que personne d'autre qu'elle ne lui aurait donné une telle preuve d'amour. Ce qu'elle avait fait, personne n'aurait pu le faire. D'ailleurs, sur le coup, il avait refusé et ne l'acceptait toujours pas. La veille au soir, il lui avait dit de ne pas laisser tomber. Il avait peut-être tout à perdre dans l'histoire, mais il voulait qu'elle attaque Fabian. Ce n'était pas possible que ce salaud soit le seul à s'en sortir. Il fallait absolument qu'elle le contre et le fasse tomber. Chahuté par les doses de codéine, il lui redit de tout balancer à ses avocats, qu'il s'y attaque à plusieurs et qu'il le mette à terre, ce chacal, et qu'ensuite il le bouffe, comme tous ces animaux qu'il voyait faire depuis 2 jours à longueur de savane, qu'elle lâche la meute et qu'il le dépouille. Mais non, rien à faire, elle ne voulait pas. Crois-moi, Ludovic, je sais ce que je fais. Ce qu'elle pensait surtout, c'est qu'avec tous les médicaments qu'il prenait, il n'était plus vraiment lucide. Il flottait dans une conscience très abstraite et semblait tout le temps à moitié endormi, un peu ailleurs. Elle savait ce qu'elle faisait et abandonnait toute procédure. Ludovic n'avait plus la force de s'y opposer. Ce dont il se rendait compte, c'est qu'elle le ménageait. Elle lui parlait comme un blessé qu'elle avait aidé à se relever, parce que c'est elle qui avait conduit la Twingo pour revenir du bureau. Ils étaient repartis de là-bas comme 2 blessés fuyant le feu adverse, 2 blessés qui se sauvent sous les tirs ennemis. Parce que oui, Fabian avait bien appelé Cobressac pour lui dire qu'un de ses employés travaillait au noir et proférait des menaces. Oui, Fabian avait bien constitué un dossier pour déposer plainte et se tenait prêt à le balancer aux flics. Elle lui avait annoncé ça, tout en le ramenant dans la voiture. Il en était d'autant plus suffoqué qu'il n'arrivait plus à respirer. Ensuite, elle l'avait aidé à monter les escaliers, puis elle avait appelé SOS médecin. Le toubib lui avait tout de suite fait 2 piqûres, après quoi il lui avait prescrit ses batteries de médicaments, elle était descendue à la pharmacie chercher toutes ses boîtes, et depuis, il ne pouvait même plus se lever de son lit, cloué par la douleur, groggy par les opioïdes. Il ne bougeait plus. Au moins, il se sentait clair. Vis-à-vis d'Aurore, il se sentait clair. Au moins, il pouvait se regarder dans la glace, parce que ce matin encore, il lui avait de nouveau proposé de se sacrifier. Une fois de plus, il lui avait dit « Aurore, attaque. Pense avant tout à toi, à tes intérêts. Sauve ta boîte. Laisse-le me balancer, je m'en fous. Je saurai me défendre. Bien sûr, on me fera des tas d'histoires, mais dans le fond, je n'ai rien à me reprocher. Dans l'histoire, je perdrai sans doute mon boulot et des mois de procédure, mais cet homme, bordel, je ne l'ai pas tué. Alors vas-y, Aurore, pense d'abord à toi. » Seulement, il faut croire qu'elle était plus forte que lui, ou hautement plus altruiste, parce qu'elle avait d'abord pensé à le protéger, lui. Après le dépôt de bilan, la boîte se retrouverait délestée de toute dette. Un coup dur pour les fournisseurs et les autres créanciers, mais au moins la marque serait comme neuve pour les repreneurs, et Aurore de sage, ils n'auraient alors rien qu'à eux et ils en feraient ce qu'ils voudraient, des robes, des sacs et des parfums. En échange, ils s'engageraient à injecter de l'argent et à garder le personnel, et qu'importe si ce n'était pas très clean, aux yeux du tribunal de commerce, l'essentiel c'était bien de sauver les emplois. Fabian reprendrait la boîte avec l'appui d'un repreneur, non pas le mort, mais son frère et tout son staff, parce que eux, ils savaient bien que dans les affaires, il ne faut jamais chasser seul, mais toujours en meute. Que dans les affaires, il ne faut jamais s'isoler. Il ne faut jamais partir seul sans s'assurer de ses appuis, à moins de chercher à se faire bouffer.